Chapitre 9. Que faisait pendant ce temps à Paris l'Assemblée nationale? Elle suivait le clergé à la procession de la fête Dieu. Sa douceur, plus que chrétienne en tout cela, est un spectacle surprenant. Elle se contenta d'une démarche que les ministres exigèrent du roi. Il défendit la cocarde blanche et condamna les signataires de la déclaration de Nîmes. Ceux-ci en furent quittes pour substituer à leur cocarde la houppe rouge des anciens ligueurs. Ils protestèrent hardiment qu'ils persistaient pour le roi contre les ordres du roi. Cela était net, simple, vigoureux. Le parti du clergé savait très bien ce qu'il voulait. L'Assemblée ne le savait pas. Elle accomplissait alors une œuvre faible et fausse, ce qu'on appelait la constitution civile du clergé. Rien ne fut plus funeste à la Révolution que de s'ignorer elle-même au point de vue religieux, de ne pas savoir quand elle portait une religion. Elle ne se connaissait point, et pas davantage de christianisme. Elle ne savait pas bien si elle lui était conforme au contraire, si elle devait y revenir ou bien aller en avant. Dans sa confiance facile, elle accueillit avec plaisir les sympathies que lui témoignait la masse du clergé inférieur. Elle se laissa dire, elle crut qu'elle allait réaliser les promesses de l'Évangile, qu'elle était appelée à réformer, renouveler le christianisme et non à le remplacer. Elle le crut, marcha en ce sens. Au second pas, elle trouva les prêtres redevenus des prêtres, des ennemis de la Révolution. L'Église lui apparut ce qu'elle était en effet, l'obstacle, le capital obstacle, bien plus que la royauté. La Révolution avait fait deux choses pour le clergé, donner l'existence, l'aisance aux prêtres, la liberté aux religieux. Et c'est justement là ce qui permit à l'épiscopat de les tourner contre elle. Les évêques désignèrent tout prêtre ami de la Révolution à la haine, au mépris du peuple, comme gagné, acheté, corrompu par l'intérêt temporel. L'honneur et l'esprit de corps poussèrent les prêtres dans la gratitude. Ils laissèrent la Révolution leur bienfaitrice pour l'épiscopat leur tyran. Chose étrange. Ce fut pour défendre leur monstrueuse fortune, leurs millions, leurs palais, leurs chevaux et leurs maîtresses, que les prélats imposèrent aux prêtres la loi du martyr. Tel qui voulait garder 800 000 livres de rente fit honte au curé de campagne les 1 200 francs de traitement qu'il acceptait de l'Assemblée. Le clergé inférieur se trouva ainsi tout d'abord et pour une question d'argent, mais en demeure de choisir. Les évêques ne lui donnèrent pas un moment pour réfléchir. Ils déclarèrent que, s'il était pour la nation, il était contre l'Église, hors de l'unité catholique, hors de la communion des évêques et du Saint-Siège, membres pourris, rejetés, renégats et apostats. Qu'allaient faire ces pauvres prêtres? Sortir du système antique où tant de siècles avaient vécu? Devenir tout à coup rebelles à cette autorité imposante qu'ils avaient toujours respectée? Quitter le monde connu et pour passer dans quel monde? Dans quel système nouveau? Il faut une idée, une foi dans cette idée pour laisser ainsi le rivage s'embarquer dans l'avenir. Un curé vraiment patriote, celui de Saint-Étienne-du-Mont, qui, le 14 juillet, marchait sous le drapeau du peuple à la tête de son district, fut accablé, effrayé, de la cruelle alternative où le plaçaient les évêques. Il resta 40 jours avec un cilice à genoux devant l'autel. Il eût pu y rester toujours, qu'il n'eût pas trouvé de réponse à l'insoluble question qui s'était posée. Ce que la Révolution avait guidé, elle le tenait du XVIIIe siècle, de Voltaire, de Rousseau. Personne dans les 20 années qui s'écoulent entre la grande époque des deux maîtres et la Révolution, entre la pensée et l'action, personne, dis-je, n'a sérieusement continué leur œuvre. Donc la Révolution trouve la pensée humaine où ils l'ont laissée. L'ardente humanité dans Voltaire, la fraternité dans Rousseau, de base, certes religieuse, mais posée seulement, très peu formulée. Le dernier testament du siècle est dans 2 pages de Rousseau, d'une tendance fort diverse. Dans l'une, au contrat social, il établit et il prouve que le chrétien n'est pas, ne peut être citoyen. Dans l'autre, qui est de l'Émile, il cède à un enthousiasme touchant pour l'Évangile, pour Jésus, jusqu'à dire « sa mort est d'un Dieu ». Cet élan de sentiment et de tendresse de cœur fut noté, consigné comme un aveu précieux, comme un démenti solennel que se donnait la philosophie du XVIIIe siècle. De là, un malentendu immense et qui dure encore. On se remit à lire l'Évangile, et dans ce livre de résignation, de soumission, d'obéissance aux puissances, on lut partout ce qu'on avait soi-même alors dans le cœur, la liberté et l'égalité. Elles y sont partout, en effet, seulement il faut s'entendre. L'égalité dans l'obéissance, comme les Romains l'avaient faite pour toutes les nations. La liberté intérieure, inactive, toute renfermée dans l'âme, comme on pouvait la concevoir quand toutes les résistances nationales ayant cessé, le monde sans espoir voyait s'affermir l'Empire éternel. Certes, s'il y a une situation contraire à celle de 89, c'est celle-là. Rien n'était plus étrange que de chercher dans cette touchante légende de résignation le code d'une époque où l'homme a réclamé son droit. Le chrétien est cet homme résigné de l'ancien empire qui ne place aucun espoir dans son action personnelle, mais croient être sauvés uniquement, exclusivement par le Christ. Il y a très peu de chrétiens. Il y en avait 3 ou 4 dans l'Assemblée constituante. Dès cette époque, le christianisme, vivace sans doute et durable comme sentiment, était mort comme système. Beaucoup s'y trompaient, entre autres tels amis de la liberté qui, touchés de l'évangile, se croyaient pour cela chrétiens. Quant à la vie populaire, le christianisme n'en conservait que ce qu'il doit à sa partie antichrétienne, empruntée ou imitée du paganisme, je veux dire à l'idolâtrie de la Vierge, des saints, à la matérielle et sensuelle dévotion du Sacré-Cœur. Le vrai principe chrétien, que l'homme n'est sauvé que par la grâce du Christ, condamné solennellement par le pape vers la fin de Louis XIV, depuis n'a fait que languir, ses défenseurs diminuant toujours de nombre, se cachant, se résignant, mourant sans bruit, sans révolte. Et c'est en cela que ce parti prouve, autant que par sa doctrine, qu'il est bien vraiment chrétien. Il se cache, je l'ai dit, quoiqu'il ait encore des armes d'une vigueur singulière qu'il gagnerait à montrer. Moi qui cherche ma foi ailleurs et qui regarde au levant, je n'ai pu voir cependant sans une émotion profonde ces hommes d'un autre âge qui s'éteignent en silence. Oubliés de tous, excepté de l'autorité pagano-chrétienne, qui exerce sur eux, à l'insu du monde, la plus lâche persécution, ils mourront dans les respects. J'ai eu lieu de les éprouver. Un jour que j'allais rencontrer dans mon enseignement leurs grands hommes de Port-Royal, j'exprimais l'intention de dire enfin ma pensée et de décharger mon cœur, de dire qu'à l'heure et aujourd'hui, en ceci comme en Port-Royal, c'était le paganisme qui persécutait le christianisme. Ils me prièrent de ne rien faire, qu'ils me pardonnent ici de violer leur secret. Non, monsieur, il est des situations où il faut savoir mourir en silence. Et comme j'insistais avec sympathie, ils m'avouèrent naïvement que selon leur opinion, ils n'avaient pas longtemps à souffrir, que le grand jour, le dernier jour qui jugera les hommes et les doctrines, ne pouvait tarder, le jour où le monde doit commencer de vivre, cesser de mourir. Celui qui, de leur part, me disait ces choses étranges, était un jeune homme austère, pâle, vieilli avant l'âge, qui ne voulut pas dire son nom, et que je n'ai point revu. Cette apparition m'est restée comme un noble adieu du passé. Je crus entendre les derniers mots de la fiancée de Corinthe. Nous nous en irons dans la tombe, joindre nos anciens dieux. Il y avait 3 de ces hommes à la constituante. Aucun n'avait de génie, aucun n'était orateur, et il n'en exerça pas moins une grande influence, trop grande certainement. Héroïque, désintéressé, sincère, excellent citoyen, ils contribuèrent plus que personne à relancer la révolution dans les vieilles voies impossibles. Autant qu'il était en eux, ils la firent réformatrice, l'empêchèrent d'être fondatrice, d'innover et de créer. Que fallait-il faire en 90, en 1800? Il fallait au moins attendre, faire appel aux forces vives de l'esprit humain. Ces forces sont éternelles. En elle est la source intarissable de la vie philosophique et religieuse. Point d'époque désespérée, la pire des siècles modernes, celle de la guerre de 30 ans, n'en a pas moins produit Descartes, le rénovateur de la pensée européenne. Il fallait appeler la vie et non organiser la mort. Les 3 hommes qui poussèrent l'assemblée à cette grande faute s'appelaient Camus, Grégoire et Langevinet. 3 hommes, 3 têtes de fer. Ceux qui virent Camus mettant la main sur Dumouriez au milieu de son armée, ceux qui virent le 31 mai Langevinet précipité de la tribune, remontant, s'y accrochant entre les poignards et les pistolets, savent que peu d'hommes furent braves à côté de ces 2 braves. Quant à l'évêque Grégoire, resté à la convention pendant toute la terreur, seul sur son banc, dans sa robe violette, personne n'osant s'asseoir près de lui, il a laissé la mémoire du plus ferme caractère qui peut-être ait paru jamais. La terreur recula devant cet inflexible prêtre. Dans les jours les plus orageux, les plus sombres nuits de la convention, elle eut en Grégoire l'immuable image du christianisme, sa protestation muette, sa menace de résurrection. Ces hommes intrépides et purs n'en furent pas moins à la tentation suprême de la révolution. Ils la poussèrent à ce temps grave d'organiser l'église chrétienne sans croire au christianisme. Sous leur influence, sous celle des légistes qui les suivaient sans la bien voir, l'assemblée, généralement incrédule et voltairienne, se figura qu'on pouvait toucher à la forme sans changer le fond. Elle donna ce spectacle étrange d'un Voltaire réformant l'Église, prétendant la ramener à la rigueur apostolique. À part l'incurable défaut de cette origine suspecte, la réforme était raisonnable. On pouvait l'appeler une charte de délivrance pour l'Église et le clergé. L'Assemblée veut que désormais le clergé soit l'élu du peuple, affranchi du concordat, du pacte honteux où Delaron, le roi, le pape, s'étaient partagés l'Église, avaient tiré sa robe au sort. Affranchi par l'élévation du traitement régulier, de l'odieuse nécessité d'exiger le casuel, la dîme, de rançonner le peuple. Affranchi des passe-droits, des petits abbés de cour qui, des boudoirs ou des alcôves, sautaient à l'épiscopat. Quitte, enfin, de tous les mangeurs, des ventrus, des cages ridicules à empâter les chanoines. Une meilleure division des diocèses, désormais d'égale étendue. 83 évêchés, autant que de départements. Le revenu fixé à 77 millions, et le clergé mieux rétribué avec cette somme qu'avec ses 300 millions de l'autre fois qui lui profitaient si peu. La discussion ne fut ni forte ni profonde. Il n'y eut qu'un mot hardi, il fut dit par le janséniste Camus, dont il dépassait certainement la pensée. Nous sommes une convention nationale. Nous avons assurément le pouvoir de changer la religion, mais nous ne le ferons pas. Puis, s'effrayant de son audace, il ajouta bien vite, nous ne pourrions l'abandonner sans crime. 1er juin 90. Légiste et théologien, ils n'invoquaient que les textes, les vieux livres. À chaque citation contestée, ils allaient chercher leurs livres. Ils s'inquiétaient de prouver non que leur opinion était bonne, mais qu'elle était vieille. Ainsi firent les premiers chrétiens. Triste argument. Il était fort douteux qu'une chose propre au temps de Tibère le fût 1800 après, à l'époque de Louis XVI. Il fallait, sans tergiverser, examiner si le droit était en haut ou en bas, dans le roi, le pape, ou bien dans le peuple. Que produirait l'élection du peuple, on ne le savait pas sans doute. Mais on savait parfaitement ce que c'était qu'un clergé de la façon du roi, du pape et des seigneurs. Quelle contenance auraient faite ces prélats qui criaient si haut, s'il aurait fallu montrer de quelle huile et de quelle main ils avaient été sacrés. Le plus sûr était pour eux de ne pas trop remuer cette question d'origine. Ils criaient de préférence sur la question la plus extérieure, la plus étrangère à l'ordre spirituel, la division des diocèses. On avait beau leur prouver que cette division, toute impériale dans son origine romaine et faite par le gouvernement, pouvait être modifiée par un autre gouvernement, ils ne voulaient rien entendre et ça heurtait là. Cette division était la chose sainte et sacro-sainte. Nul dogme de la foi chrétienne n'était plus avant dans leur cœur. Si l'on ne convoquait un concile, si l'on en référait au pape, tout était fini. On allait être schismatique, et de schismatique hérétique, d'hérétique sacrilège, athée, etc., etc. Ces facéties sérieuses, qui à Paris faisaient hausser les épaules, n'en avaient pas moins les filles voulues dans l'Ouest et le Midi. On les répandait imprimées à nombre immense, avec la fameuse protestation en faveur des biens du clergé, laquelle arriva en 2 mois à la 30e édition. Répétée le matin en chaire, le soir commentée au confessionnal, ornée de gloses meurtrières, ce texte de haine et de discorde allait exaspérant les femmes, ravivant les fureurs religieuses, affilant les poignards, aiguisant les fourches et les faux. Le 29, le 31 mai, l'archevêque d'Aix et l'évêque de Clermont, l'un des principaux meneurs et l'homme de confiance du roi, notifièrent à l'assemblée l'ultimatum ecclésiastique. Que nul changement ne pouvait se faire sans la convocation d'un concile. Dans les premiers jours de juin, le sang coule à Nîmes. Frelon avait armé ses compagnies les plus sûres. Il avait même à grands frais habillé plusieurs de ses hommes aux couleurs du comte d'Artois. Voilà les premiers verdets du Midi. Appuyé d'un aide-de-camp du prince de Condé, soutenu de plusieurs officiers municipaux, il avait enfin tiré du commandant de la province la promesse d'ouvrir l'arsenal, de donner des fusils à toutes les compagnies catholiques. Dernier acte décisif que la municipalité et le commandant ne pouvaient faire sans se déclarer franchement contre la Révolution. « Attendons encore un moment, » disait la municipalité. « Les élections du département commencent le 4 à Nîmes. Allons doucement jusqu'au vote, faisons-nous donner les places. »« Agissons, » disait Froment. « Les électeurs voteront mieux au bruit des coups de fusil. »« Les protestants s'organisent, ils s'entendent fortement de Nîmes à Paris, de Nîmes aux Cévennes. » Nîmes était-elle bien sûr pour le clergé si l'on l'attendait? La ville allait ressentir dans son industrie un bienfait immédiat de la Révolution. La suppression des droits sur le sel, le fer, les cuirs, les huiles, le savon, etc. Et la campagne catholique, fort catholique avant la moisson, le serait-elle autant après, lorsque le clergé aurait exigé la dîme? Un procès était pendant contre les meurtriers de Mai, contre le frère de Froment. Il avançait lentement, ce procès, mais il avançait. Une dernière chose et décisive qui força Froment d'agir, c'est que la révolution d'Avignon s'était accomplie le 11 et le 12 qu'elle allait démoraliser son parti, lui faire tomber les armes des mains. Avant que la nouvelle fût répandue, le 13 au soir, il attaqua, jour favorable, un dimanche, octave de la fête Dieu, une bonne partie du peuple ayant bu, étant monté. Froment et les historiens de sa couleur, du parti battu, assurent cette chose incroyable, que les protestants commencèrent. Qu'ils troublèrent eux-mêmes les élections où était tout leur espoir. Ils soutiennent que c'est le petit nombre qui a entrepris d'égorger le grand. 6 000 hommes contre 20 et quelques mille, sans parler de la banlieue. Et ce petit nombre était donc bien aguerri, bien terrible. C'est une population éloignée depuis un siècle de toute habitude militaire. Des marchands qui craignaient excessivement le pillage. Des ouvriers chétifs, physiquement très inférieurs aux portefaix, vignerons et laboureurs que Froment avait armés. Les dragons de la garde nationale, protestants pour la plupart, marchands et fils de marchands, n'étaient pas gens pour tenir contre ces hommes forts et rudes qui buvaient à volonté dans les cabarets le vin du clergé. Partout où les protestants avaient la majorité, les deux cultes offrirent le spectacle de la fraternité la plus touchante. À Saint-Hippolyte, par exemple, le 5 juin, les protestants avaient voulu monter la garde avec les autres pour la procession de la fête Dieu. Le jour de l'explosion à Nîmes, les patriotes, 1500 du moins, et les plus actifs, étaient réunis au club, sans armes et délibérés, les tribunes pleines de femmes. La panique y fut horrible au premier coup de fusil, 13 juin 1790. 8 jours avant, à l'ouverture des élections, on avait commencé d'insulter, d'effrayer les électeurs. Ils demandèrent un poste de dragon, des patrouilles pour dissiper la foule qui les menaçait. Mais cette foule menaça bien plus encore les patrouilles. La complaisante municipalité tint alors les dragons au poste. Le 13 au soir, les hommes à houppes rouges viennent dire aux dragons que s'ils ne partent, ils sont morts. Ils restent et reçoivent des coups de fusil. Le régiment de Guyenne brûlé d'aller au secours. Les officiers ferment les portes et le tiennent au quartier. Devant cette lutte inégale, devant les élections si criminellement troublées, la municipalité avait un devoir sacré, arborer le drapeau rouge, requérir les troupes. Plus de municipalité. L'assemblée électorale du département, dans cette ville hospitalière, se trouve abandonnée des magistrats au milieu des coups de fusil. Parmi les vernets de Froment se trouvaient les domestiques même de plusieurs des officiers municipaux, pêle-mêle avec ceux du clergé. La troupe, la garde nationale, ne recevant nulle réquisition, Froment tenait seul le pavé. Ces gens égorgés à leur aise, ils commençaient à forcer les maisons des protestants. Pour peu qu'ils gardent un avantage, il fut venu de Sommières, qui n'est qu'à 4 lieues, un régiment de cavalerie, dont le colonel, très ardent, s'offrait, lui, ses hommes, sa bourse. La chose alors prenant la figure d'une vraie révolution, le commandant de la province eut suivi enfin les ordres qu'il avait du comte d'Artois, il aurait marché sur Nîmes. Chose tout à fait inattendue, ce fut Nîmes qui manqua. Des 18 compagnies catholiques formées par Froment, 3 seulement le suivirent. Les 15 autres ne bougèrent. Grande leçon, qui fit voir au clergé combien il s'était trompé sur l'état réel des esprits. Au moment de verser le sang, les vieilles haines fanatiques, habilement ravivées de jalousie sociale, ne furent pas assez fortes encore. Cette grande et puissante Nîmes qu'on avait cru pouvoir soulever si légèrement, resta ferme, comme ces indestructibles monuments, ces nobles et éternelles arènes. Un nombre infiniment petit des 2 parties combattirent. Les Verdets se montrèrent très braves, mais furieux, aveugles. Par 2 fois, on força les municipaux, enfin retrouvés, d'aller à eux avec le drapeau rouge. 2 fois, ils enlevèrent tout, drapeau rouge et municipaux, à la barbe de leurs ennemis. Ils tiraient sur les magistrats, sur les électeurs, sur les commissaires du roi. Le lendemain, ils tirèrent sur le procureur du roi et lieutenant criminel qui faisait la levée des morts. Ces crimes capitaux, s'il en fut, réclamaient la plus prompte, la plus sévère répression. Eh bien, la municipalité ne réclama de la troupe qu'un service de patrouille. Si Froment eut plus de monde, il eut sans doute occupé le grand poste des arènes, très défendable alors. Il y laissa quelques hommes et quelques autres aussi au couvent des Capucins. Lui-même, il rentra dans son fort, au rempart, dans la tour du vieux château. Une fois dans cette tour en sûreté, tirant à son aise, il écrivit à Sommières, à Montpellier pour avoir secours. Il envoya dans les villages catholiques et fit sonner le tocsin. Les catholiques furent très lents, ou même restèrent chez eux. Les protestants furent très promptes. À la nouvelle du péril où se trouvaient les électeurs, ils marchèrent toute la nuit. Le matin, de 4 à 6 heures, une armée de Cévenols, sous la cocarde tricolore, était dans Nîmes, en bataille, criant « Vive la nation !» Alors les électeurs agirent. Formant un comité militaire à l'aide d'un capitaine d'artillerie, ils allèrent à l'arsenal chercher des canons. On y entrait par la rue ou par le quartier du régiment de Guyenne. Les officiers, dans leur malveillance, leur dirent « Passez par la rue !» Ils y furent criblés de coups de fusil, rentrèrent, et les officiers, voyant leurs soldats indignés qui allaient tourner contre eux, livrèrent enfin les canons. La tour, battue en brèche, fut bien obligée de parler. Froment, audacieux jusqu'au bout, envoya une incroyable missive où il offrait d'oublier. Alors, il n'y eut plus de grâce. Le soldat ne voulut plus que la mort des assiégés. On tâchait de les sauver, mais ils se perdirent eux-mêmes. En parlementant, ils tiraient. Ils furent forcés, pris d'assaut, poursuivis et massacrés. 2 jours, 3 jours, on les chercha, ou du moins, sous ce prétexte, beaucoup de haine s'assouvirent. Le couvent des Capucins, la boutique des pamphlets d'où on avait tiré d'ailleurs, fut forcé et tout tué. Il en fut de même d'un cabaret célèbre, quartier général des Verdets. On trouva, caché dans ce bouge, de magistrats municipaux. Tout ce temps, les deux parties se fusillaient par les rues ou des fenêtres. Les sauvages des Cévennes ne faisaient guère grâce. Il y eut 300 morts en 3 jours. Nulle église ne fut pillée, nulle femme insultée. Ils étaient austères dans la fureur même. Ils n'auraient pas imaginé, comme les Verdets de 1815, de fouetter des filles à mort d'abattoirs fleur-d'Elysée. Cette cruelle affaire de Nîmes, perfidement arrangée par la contre-révolution, eut cela de curieux qu'elle écrasa ceux qui la firent. Le preneur fut prêt au piège, le gibier chassa le chasseur. Tout manqua à la fois au moment de l'exécution. On comptait sur Montpellier, le commandant nos avenirs. Ce qui vient, c'est la garde nationale, brave et patriote, le noyau futur de la Légion de la Victoire, la 32e demi-brigade. On comptait sur Arles. En effet, Arles offre secours, mais c'est pour écraser le parti de la contre-révolution. Le Pont Saint-Esprit arrête les envoyés de Froment. Allez maintenant, appelez les catholiques du Rhône. Tâchez d'embrouiller les choses, de faire croire qu'en tout ceci votre religion est en péril. Il s'agit de la patrie. C'est tout le Rhône catholique qui se déclare contre vous, et bien plus révolutionnaire que ne furent les protestants. Votre sainte ville du Rhône, la petite Rome du pape, Avignon a éclaté. Avignon. Comment la France avait-elle jamais pu ôter ce diamant de son diadème? Ô Vaucluse, ô pur éternel souvenir de Pétrarque, noble asile du grand Italien qui mourut d'amour pour la France, symbole adoré du mariage futur des deux contrées, comment donc est-il tombé aux mains polluées du pape? Une femme pour de l'argent, pour l'absolution de l'assassinat, on dit Avignon et Vaucluse, 1348. Avignon, sans prendre conseil, avait fait comme la France une milice nationale, une municipalité. Le 10 juin, tout ce qu'il y avait de noblesse et d'amis du pape, maître de l'hôtel de ville, de 4 pièces de canon, crie « Vive l'aristocratie !» 30 personnes tuées ou blessées. Mais alors aussi, le peuple se met sérieusement au combat. En tue plusieurs, en prend 22. Toutes les communes françaises, Orange, Bagnoles, Pont-Saint-Esprit, viennent secourir Avignon et sauver les prisonniers. Ils les tirent des mains des vainqueurs, se chargent de les garder. Le 11 juin, on brise les armes de Rome et l'on met à la place les armes de France. Avignon vient à la barre de l'Assemblée nationale et se donne à sa vraie patrie, disant cette grande parole destamment du génie romain. Français, régnez sur l'univers. Entrons plus loin dans les causes. Complétons. Expliquons mieux ce drame rapide. Pour faire une guerre religieuse, il faut être religieux. Le clergé n'était pas assez croyant pour fanatiser le peuple. Et il ne fut pas non plus très politique. Cette année même, 1790, lorsqu'il avait tant besoin du peuple qu'il sondait ici et là, il lui demanda encore la dîme abolie par l'Assemblée. Dans plusieurs lieux, des soulèvements eurent lieu contre lui, spécialement dans le Nord pour cette malheureuse dîme qu'il ne pouvait pas lâcher. Ce clergé aristocratique sans intelligence des forces morales crut qu'un peu d'argent, de vin, la violence du climat, une étincelle suffisait. Il aurait dû comprendre que pour refaire du fanatisme, il fallait du temps, de la patience, de l'obscurité, un pays moins surveillé, loin des routes et des grandes villes. On pouvait, à la bonne heure, travailler lentement ainsi le bocage vendéen, mais agir en pleine lumière, au beau soleil du midi, sous l'œil inquiet des protestants, dans les voisinages des grands centres comme Bordeaux, Marseille, Montpellier, qui voyaient tout, qui pouvaient à la moindre lueur venir marcher sur l'étincelle, c'était d'un essai d'enfant. Froment fit ce qu'il pouvait, il montra beaucoup d'audace, de décision, et il fut abandonné. Il éclata au vrai moment, voyant que l'affaire d'Avignon allait gâter celle de Nîmes, ne comptant pas trop ses chances, mais tâchant de croire, en brave, que ces gens douteux qui jusque-là n'osaient se déclarer pour lui, prendraient enfin leur parti quand ils le verraient engagé. Ils ne pourraient de sang-froid le voir écrasé. La municipalité, autrement dit la bourgeoisie catholique, fut prudente. Elle n'osa requérir le commandant de la province. La noblesse fut prudente. Le commandant, les officiers en général, ne voulurent rien faire que sur bonne et légale réquisition de la municipalité. Ce n'était pas que les officiers manquassent de courage, mais le soldat n'était pas sûr. Au premier ordre extra-légal, il pouvait répondre à coups de fusil. Pour le donner, ce premier ordre, pour faire cette dangereuse expérience, il fallait d'avance avoir sacrifié sa vie. Sacrifier à quelle idée, à quelle foi? La majorité de la noblesse, royaliste, aristocrate, n'en était pas moins philosophe et voltairienne. C'est-à-dire, par un côté, gagner aux idées nouvelles. La révolution, de plus en plus harmonique et concordante, apparaît chaque jour davantage ce qu'elle est, une religion. Et la contre-révolution, dissidente, discordante, atteste en bas la vieille foi. Elle n'est pas une religion. Nul ensemble, nul principe fixe. Sa résistance est flottante dans plusieurs sens à la fois. Elle va, comme un homme ivre, à droite et à gauche. Le roi est pour le clergé, et il refuse d'appuyer la protestation du clergé. Le clergé solde, arme le peuple, et il lui demande la dîme. La noblesse, les officiers, attendent l'ordre de Turin, et en même temps, celui des autorités révolutionnaires. Une chose leur manque à tous pour rendre leur action simple et forte, la chose qui abonde dans l'autre partie, la foi. L'autre partie, c'est la France. Elle a foi à la loi nouvelle, à l'autorité légitime, l'Assemblée, vraie voix de la nation. De ce côté, tout est lumière. De l'autre, tout est équivoque, incertitude et ténèbres. Comment hésiter? Tous ensemble, le soldat, le citoyen, se donnant la main, iront désormais d'un pas ferme et sous le même drapeau. D'avril en juin, presque tous les régiments fraternisent avec le peuple. En Corse, à Caen, à Brest, à Montpellier, à Valence, comme à Montauban, comme à Nîmes, le soldat se déclare pour le peuple et pour la loi. Le peu d'officiers qui résistent est tué, et l'on trouve sur eux l'épreuve de leur intelligence avec l'émigration. On l'attend, celle-ci, de pied ferme. Les villes du Midi ne s'endorment pas. Briançon, Montpellier, Valence. Enfin, la grande Marseille veulent se garder elles-mêmes. Elles s'emparent de leurs citadelles et remplissent de leurs citoyens. Viennent maintenant, s'ils veulent, l'émigré et l'étranger. Une France, une foi, un serment. Ici, point d'homme douteux. Si vous voulez rester flottant, quittez la terre de loyauté, passez le Rhin, passez les Alpes. Le roi lui-même sent bien que sa meilleure épée, bouillée, finirait par se trouver seule s'il ne jurait comme les autres. L'ennemi des fédérations qui se mettait entre l'armée et le peuple est obligé de céder. Peuple, soldats, unis de cœur, tous assistent à ce grand spectacle. L'inflexible va fléchir. Le roi ordonne, il obéit. Il s'avance entre eux, triste et sombre, et sur son épée royaliste, jure fidélité à la Révolution.